Merci, monsieur le professeur Aboura. Je suis très content d'être ici. Et ça me fait toujours plaisir de visiter Paris, une ville que je connais depuis 55 ans. D'avoir cette occasion de partager avec vous quelques pensées sur la situation en Europe. Il faut dire que je suis très conscient que je reste quand même un témoin assez distant, que mon engagement personnel dans le destin et l'avenir de l'Europe reste assez limité. Mais je crois que cela me donne, si j'ose le dire, une perspective un peu détachée. Et j'ai eu une expérience très intéressante dans la première partie de cette année, c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de travailler avec, de façon très proche, pendant 5 mois, le ministre des Finances de la République hellénique, mon ami, mon ancien collègue de l'Université du Texas, pendant 2 ans, entre 2013 et 2015, c'est-à-dire Yanis Varoufakis. C'était une expérience enrichissante, d'un certain point de vue. Et je veux vous en parler surtout sur les effets de cette expérience sur une valeur que nous partageons, surtout, sûrement, c'est-à-dire la valeur de la démocratie. Une valeur universelle et, on peut dire, éternelle. Mais je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Vous vous souvenez sans doute qu'en mai 2014, il y a eu les élections pour le Parlement européen et pour la présidence de la Commission européenne. Et celui qui a effectivement gagné ces élections, c'était le Premier ministre de Luxembourg, M. Jean-Claude Juncker. Mais à la suite de ces élections, il restait quand même une question. Est-ce qu'il allait vraiment accéder à la présidence de la Commission européenne? Ce n'était pas, du point de vue des procédures formelles, certain que ça se suivrait. J'étais à Athènes en ce moment-là. J'ai passé la nuit des élections dans le quartier général de Syriza, le parti de la coalition des partis de la gauche radicale en Grèce, en compagnie avec Yanis Varoufakis, avec le leader de l'opposition grecque à l'époque, un jeune homme qui s'appelle Alexis Tsipras. Et 2 jours après, on déjeunait ensemble, tous les trois, avec un autre, c'était l'aide de Tsipras, Nikos Pappas. Alexis nous a dit: malgré mes différences politiques avec M. Juncker, je considère qu'il doit accéder à la présidence de la Commission européenne. C'est un principe démocratique que les élections comptent pour quelque chose. Et je lui ai dit, j'ai indiqué, j'étais d'accord sur le principe. Et il m'a dit, est-ce que tu veux bien rédiger pour moi quelques paragraphes pour la presse internationale pour annoncer ma position? Alors, j'étais d'accord et c'est moi qui ai fait ça pour déclarer que le chef du Parti radical de la gauche grecque soutenait l'élection de Juncker à la présidence européenne. C'était, comme je dis, l'application, dans un certain cas, d'un principe. Alors, passons, si vous voulez bien, à la situation en Grèce. Il faut d'abord considérer un peu l'histoire de cette affaire. On peut dire, sans peur de contradiction, que la Grèce n'a jamais été un pays bien gouverné. Elle a toujours été soit sous les oligarchies, soit sous les populistes, une administration publique moderne. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la République grecque. L'entrée de la Grèce à l'euro, c'était une erreur, sans question. La Grèce n'était pas qualifiée pour y entrer selon les critères économiques. C'était une décision politique pour mettre la frontière, effectivement, de l'Europe là. Mais c'était une décision politique avec des conséquences économiques extrêmement profondes. C'est-à-dire, tout d'abord, la convergence des taux d'intérêt, l'élimination des risques de changement dans les taux d'échange, ce qui permettait, encourageait une augmentation très forte dans les emprunts d'État, dans les déficits et dans la dette de l'État grec, pour la plupart dans la poursuite des projets non rentables, certainement pas rentables sur les termes commerciaux, c'est-à-dire pour les équipages militaires, soit allemands, soit français, soit américains, pour les infrastructures, pour les Jeux olympiques et pour financer des déficits cachés dans le système de santé et ailleurs dans le budget du gouvernement grec. Tout cela allait tomber de toute façon sur le public, sur les revenus de l'État grec en général. Et il y avait certainement derrière ça une expectation, si je peux le dire, d'une croissance dans les revenus et dans la capacité de la taxation des impôts. Malgré le fait qu'en même temps, la hausse dans les coûts, les coûts du travail, avait tendance à réduire la possibilité de ce genre de croissance dans les revenus. Alors, situation extrêmement fragile pendant une décennie, de plus en plus fragile pendant la première décennie de l'existence de l'euro. Et puis, à la suite de la crise financière internationale qui a commencé en 2007, qui s'est aggravée au cours de 2008, et qui a commencé à tomber sur l'Europe en 2009, à la fin de 2009, avec l'arrivée du gouvernement de George Papandreou, la situation en Grèce devenait ouvertement impossible. Il y avait la chute totale des marchés de crédit, la perte totale d'accès au crédit dans les marchés internationaux. Alors, que faire? Dans les premiers mois de 2010, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans ces mois-là, l'Europe, assistée par le Fonds monétaire international et avec le soutien très important d'ailleurs du gouvernement américain qui insistait sur cette solution, a commis une crime financière, a commis une fraude financière du premier ordre, c'est-à-dire la fraude consistait en faisant un prêt envers une entité en